Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, le secrétaire général déplore le vent de folie qui balaie le globe. Face au coronavirus, l'OMS réitère les précautions sanitaires de base et lance un plan de préparation et de réponse mondiale. Suite aux tueries à Beni en RDC, l'ONU élabore un plan conjoint de protection des civils avec les forces nationales. Enfin, en dossier, le HCR renforce son engagement dans le Sahel. Le chef de l'ONU a appelé mardi à briser les cercles vicieux qui affectent actuellement le monde. Selon Antonio Guterres, aujourd'hui, un vent de folie balaie le globe. De la Libye au Yémen, en passant par la Syrie et au-delà, l'escalade est de retour. Les armes affluent et les offensives augmentent, a déploré le secrétaire général lors d'une conférence de presse à New York, évoquant le cas du Liban qui subit par ricochet les conséquences de ces crises. On l'écoute.
Le Liban fait face à une crise politique complexe, en même temps avec une expression très évidente de beaucoup de secteurs de la population que le système traditionnel de gouvernement du Liban ne correspond plus à leurs désirs, à leurs espoirs, à leurs inquiétudes. Et naturellement, aujourd'hui, au Liban, nous suivons avec beaucoup d'intérêt cette expression et cette volonté de réformer profondément les mécanismes de fonctionnement politique du Liban et le besoin de combattre effectivement la corruption et d'avoir un État libanais qui n'est pas une vision sectaire dans sa composition. Mais en même temps, le Liban fait face à une crise économique et financière très difficile et c'est très important d'éviter que ça puisse conduire à une situation d'augmentation terrible de la pauvreté et de l'instabilité dans le pays. Et c'est vrai que le Liban fait un grand effort du point de vue des réfugiés qui vivent au Liban. Et c'est très important de préserver la stabilité économique du Liban aussi pour éviter que ces réfugiés puissent payer un nouveau prix dans leur vie après tout ce qu'ils ont déjà souffert.
L'OMS a lancé ce mercredi un plan de réponse mondiale au coronavirus pour aider à contrer l'épidémie qui compte désormais au moins 24 000 cas et 490 morts en Chine. L'Organisation mondiale de la santé rappelle aux populations des précautions sanitaires de base. Dr Sylvie Briand est directrice de la préparation au risque d'infection mondiale à l'OMS. Elle explique comment le coronavirus peut se transmettre et les précautions à prendre pour éviter une contamination.
Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est une transmission par gouttelette, ou droplet en anglais, et donc c'est la même transmission que d'autres virus. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une possibilité aussi que le virus reste pendant un certain temps sur des surfaces, et puisse, si les gens touchent ces surfaces immédiatement après, puissent se contaminer à travers ce contact. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est combien de temps. Ça, on ne sait pas encore. Et c'est pour ça que, du coup, on préconise un lavage fréquent des mains. Parce que comme ça, si les gens se lavent les mains, même s'ils ont touché des surfaces contaminées, en se lavant les mains juste après ce contact, ils se protègent contre l'infection.
Dans la région de Beni, dans l'est de la RDC, plus de 300 civils, notamment des femmes et des enfants, ont été tués depuis le mois d'octobre, dont au moins 72 au cours de la dernière semaine, lors d'attaques brutales des combattants présumés de l'ADF. Le commandant de force de la mission de l'ONU en RDC, le général Augusto Ferreira Carlos Neves, s'est rendu à Beni mardi pour élaborer un plan conjoint de protection des civils dans la région avec les forces de l'armée nationale. Une rencontre et un appui dont s'est félicité le général de la 3e zone de défense des forces nationales FARDC, le général Sikwa Befal.
Depuis le départ, nous travaillons avec la MONUSCO. À plusieurs reprises, nous avons été bloqués avec nos blessés dans les axes de front, mais la MONUSCO donc, a déplacé ses hélicoptères pour faire sortir les blessés. Aujourd'hui, nous pouvons facilement faire Kasinga-Kilidjoué, la route. C'est une route qui nous a été tracée par la MONUSCO. Donc nous sommes en train de travailler le commun accord avec la MONUSCO. En ce qui concerne la protection des civils, ça ne peut pas laisser la MONUSCO indifférente. C'est pourquoi vous voyez le force commandant, il vient pour qu'ensemble, nous et lui et son état-major, nous puissions planifier, mettre sur pied un plan cohérent qui peut nous permettre d'éradiquer ce pic de violence que nous avons connu cette semaine. Dès que nos cellules des opérations se mettent d'accord sur l'approbation de ce plan, nous le mettons directement dans la marche. Nous sommes obligés de changer de plan. L'ennemi nous conduit dans une guerre asymétrique en ciblant les populations civiles. Nous devons changer aussi de plan pour protéger efficacement cette population civile.
retour sur la visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Sahel. Filippo Grandi s'est rendu au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie, où il a rencontré des personnes déplacées, des réfugiés et les communautés d'accueil. Monsieur Grandi s'est inquiété de l'insécurité grandissante qui force les gens à quitter leur foyer. Selon lui, il importe d'intervenir avant que cette crise ne devienne ingérable. Pour en savoir plus, on écoute Romain Desclou, porte-parole du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, au micro d'Alpha Diallo.
Face à un déplacement de telle ampleur, et les chiffres hélas parlent d'eux-mêmes, au Burkina Faso, nous sommes passés en 2019 de un peu moins de 50 000 déplacés internes à plus de 560 000. Un chiffre que le président du Faso a avoué avec le haut-commissaire hier, dépassait plus que probablement les 600 000 à ce jour. Mais ce n'est pas que le Burkina Faso. Au Mali, les déplacés internes ont progressé jusqu'à atteindre un niveau de plus de 200 000 personnes. Mais ce ne sont pas que les déplacés internes. On parle également de réfugiés, de personnes qui ont fui le Mali, qui cherchaient refuge, protection, asile, et se retrouvent maintenant dans des pays qui se retrouvent eux-mêmes à faire face à une situation d'insécurité avec des ressortissants de ces pays qui fuient eux-mêmes la violence. Donc, quand on parle d'un risque que la situation ne dégénère, c'est-à-dire face à ces déplacements, il faut pour que nous puissions apporter une réponse d'urgence aux besoins flagrants de ces personnes qui fuient et également apporter une réponse qui permette de prendre à bras le corps les causes de situations de crise.
Et le patron d'IHR pense qu'il est essentiel d'éviter le risque d'une déstabilisation de la région de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Pourquoi ?
Parce qu'il faut voir que la situation au Sahel évolue. Une situation qui, au départ, était initiée depuis le Mali, avec des personnes qui fuyaient le Mali vers d'autres pays, se retrouvent à leur tour pris dans des violences des pays voisins. On parle maintenant du Burkina, du Niger. Et il faut voir également que la situation au Sahel ne peut pas être déconnectée de celle du bassin du lac Tchad. C'est-à-dire que l'attention qui doit être portée sur le Sahel ne doit pas faire oublier d'autres situations qui sont voisines. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et s'assurer que nous soyons en mesure de répondre aux besoins les plus urgents sans oublier les autres besoins criants.
Et pour revenir à la visite du haut-commissaire Grandi dans les régions du Sahel, aussi bien au Niger qu'au Burkina Faso, ce sont les mêmes récits d'horreur qui ont été racontés au haut-commissaire Grandi. Mais de tous ces témoignages, lesquels ont le plus bouleversé le chef du HCR ?
Vous savez, nous sommes allés à Kaya, Burkina Faso. Nous sommes allés à Dori, également au Burkina Faso, ou bien à Wallam, au Niger. Le haut-commissaire a entendu des témoignages plus que frappants. Il a été ému par, hélas, le récit de violences hallucinantes. On parle de meurtres de personnes, de femmes qui ont vu leur famille décimée dans une attaque, qui ont dû enterrer en vitesse leurs propres membres de la famille avant de fuir elles-mêmes en prenant avec elles le peu de choses qu'elles avaient, parfois uniquement les vêtements qu'elles avaient sur elles-mêmes. En ayant de la chance, elles pouvaient partir avec leurs enfants. Ce sont ces récits, hélas, individuellement frappants et entendus plusieurs fois, maintes et maintes fois. Là encore, quand on parle de la masse de personnes déplacées, la multiplication de ces témoignages qui individuellement sont choquants, on ne peut rester insensible.
Pour M. Grandi, la réponse à la crise du Sahel ne doit pas se limiter aux seules questions sécuritaires. Est-ce une façon de rappeler l'enjeu de la protection de ces populations vulnérables ?
En effet, la réponse à la crise du Sahel a été une crise de déplacement. La réponse ne peut être sécuritaire seulement. Il doit prendre en compte l'essentiel de protection des personnes qui sont forcées de fuir, la protection de leurs droits. Mais également, il s'agit de faire en sorte que l'on pense au-delà de la réponse humanitaire, que l'on essaye de s'assurer que les causes premières de la crise soient prises en compte. Par exemple, l'éducation, s'assurer que les enfants puissent avoir accès à une éducation après cette situation de crise et de déplacement, pour s'assurer également que les communautés d'accueil soient en mesure de pouvoir accueillir ces personnes et qu'au contraire, qu'elles ne soient pas plongées dans une pauvreté plus extrême, dans un manque de ressources plus extrême. Quand les déplacés arrivent dans une communauté, cette communauté n'a pas accès à l'eau déjà, a très peu d'abris, n'a pas accès à l'éducation, où les ressources de santé sont limitées, il faut pouvoir répondre à ses besoins. C'est ça l'importance de faire le lien entre la réponse humanitaire et une de développement qui va pouvoir intégrer beaucoup plus d'acteurs.
Romain Desclou, dernière question. Plus largement, l'une des leçons de cette visite du haut-commissaire Grandi est de constater cette résilience des populations d'Israël. Certains de ces pays sont parmi les plus pauvres au monde, mais aussi parmi les plus généreux. Est-ce une leçon pour les autres pays ?
C'est indéniablement une leçon et pour nous un exemple que de voir que dans un monde où l'accueil des réfugiés ne paraît hélas ne pas à l'horreur de soi, on voit ces populations qui sont parmi les plus démunies et qui accueillent en leur sein des personnes encore plus démunies qu'elles. Elles les accueillent les bras ouverts, partagent avec elles un abri, le peu de nourriture, le peu de ressources. Et ça c'est un symbole. C'est quelque chose que le haut-commissaire a noté, c'est quelque chose que le haut-commissaire va porter avec lui dans ses rencontres futures.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.